Hey, yo, check 1-2. This is Flavor, Flavor, Public Enemy. You listening to K? Yo, check 1-2. This is Flavor, Flavor, Public Enemy. And you listening to CKUT and the place to be from the bottom to the TOP.
Yeah, perfect, man. Thanks a lot, man. Keep doing that. Real heads, keep listening.
Now, this is Angela Davis. You're listening to CKUT 90.3.
Angela, you're one of a million.
Allô, allô à toutes avec un crisse de gros E, à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde.
La très bienvenue à ce nouvel épisode de cette deuxième saison de votre podcast queer féministe interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À chaque épisode, on se garoche vite comme quelqu'un qui a manqué l'autobus puis qui court pour le rattraper au prochain arrêt dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse vivement. On l'observe avec nos lunettes nerd radicales de presque trentenaire, ben à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast.
Dans le fond, là, tout ou pantoute, c'est comme la belle vue par la fenêtre de ton bureau par laquelle tu regardes les deux yeux d'engraisse de bine pour oublier que ta job est plate.
Ceci est une histoire vécue. Bon, aujourd'hui, on parle encore d'entrepreneuriat. On finit notre mini-série de deux épisodes sur le sujet avec une entrevue avec une invitée anonyme qui est pertinente en maudit. Puis, on passe sur toutes sortes de chires de notre bord, bien évidemment.
On est en direct de Villeray à Montréal et de Trois-Pistoles dans le bas du fleuve.
Je m'appelle Alexandra Turgeon.
Moi, Laurie Perron.
Vous écoutez
Tout.
À toutes avec un crisse de gros E. Saviez-vous que vous pouviez vous abonner au Patreon de Toutes Pantoutes? En plus de vous sentir vraiment cool parce que vous avez aidé un projet médiatique indépendant féministe mené par des femmes puis des personnes non-binaires, déjà c'est pas pire, en plus vous allez avoir accès à des suppléments. Nos entrevues complètes avec les invités, des surprises secrètes envoyées direct chez vous par la malle, puis une fois par mois, un stream en direct avec nous autres. Tous les détails au patreon.com/toutoupantoutes. Une autre petite parenthèse juste avant de commencer. Cet épisode aborde le sujet du consentement et du non-consentement sexuel. Si ce sont des sujets qui sont délicats pour vous, on vous recommande d'être dans des bonnes conditions avant d'écouter la discussion qui va suivre notre entrevue. Ah oui, puis faites pas le saut, la voix de notre invité a été altérée pour préserver son anonymat. OK, bonne écoute!
L'entrepreneuriat, c'est large. Ça regroupe toutes les façons possibles de s'assurer un revenu sans être employé par un ou une patronne. On a parlé de la forme la plus connue ou reconnue d'entrepreneuriat, soit de mettre sur pied une entreprise avec pignon sur rue puis des objets physiques à vendre, dans le dernier épisode avec Gabriella Quinté. On va vous jaser tantôt de nos expériences de travailleuses autonomes en art et en communication, donc de la production et marchandisation de produits intangibles mais concrets. Mais avant ça, on se lance dans une discussion autour du travail du sexe, une facette injustement controversée de l'entrepreneuriat. Pour ce faire, j'ai réalisé une entrevue avec une travailleuse du sexe dont on va garder l'anonymat, qui a eu la générosité de nous expliquer plein d'affaires de base, en plus d'approfondir des liens complexes entre le travail du sexe, l'entrepreneuriat et les perceptions sociales. Ben du stock, juste pour vous, dans deux petites secondes. Allô, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui, c'est full fin.
Ça me fait plaisir.
Pour commencer, avant de prendre plein d'affaires pour acquis, j'ai envie de te demander si toi, tu considères ton métier comme une forme d'entrepreneuriat.
Ben oui puis non. Moi, j'ai deux métiers dans le travail du sexe. Je suis dominatrice, Puis, je suis masseuse érotique. Dans le cadre de mon métier, mettons, de dominatrice, oui, je considère ça comme l'entrepreneuriat parce que c'est moi qui s'occupe de promouvoir mes services. Puis, ça implique plusieurs volets, les photoshoots, les annonces sur plusieurs sites, la gestion de mon propre site Internet, la sélection des clients, vérification de leurs informations, la comptabilité, puis tout. Oui, ça, vraiment, là, en fait, la plus grande partie de mon travail, c'est plus de nature administrative que l'échange de services qui va s'en suivre. Par contre, dans le cadre de mon métier de masseuse, je ne travaille pas comme indépendante, je travaille dans un salon de massage. Ça, je vois plus ça comme du travail autonome. C'est moi qui fais mes propres horaires à chaque semaine en fonction de mes disponibilités. Puis, je n'ai pas vraiment d'engagement envers le salon. Je le remets seulement comme un pourcentage à la fin de chaque chiffre pour la location de l'espace, puis des produits, puis les frais d'annonce. Mais c'est vraiment pas moi qui s'occupe de promouvoir mes services. Puis, il n'y a aucun aspect administratif. Là, comme je rentre au salon, je fais mon travail, je m'en vais. Puis, dans l'entre-deux de mes chiffres, j'ai rien à m'occuper.
Ouais, fait que dans le fond, dans ton cas à toi, c'est vraiment découpé. Quand tu le fais de façon indépendante, c'est carrément de l'entrepreneuriat comme n'importe quel job d'entrepreneur.
Exactement.
Dans le système capitaliste dans lequel on vit, parce que j'adore parler de capitalisme parce que j'haïs ça. Bref, je trouve que tout le monde utilise son corps pour s'assurer un revenu, dans le fond, tu sais, autant genre en tapant à l'ordinateur, en emballant des fruits puis des légumes, en tirant du javelot aux Olympiques ou en offrant des services sexuels, mais il y a quand même vraiment plus de préjugés qui persistent sur le travail du sexe que sur n'importe quelle autre profession. Est-ce que tu le ressens, toi, au quotidien, puis qu'est-ce que tu penses de cette hiérarchisation-là des métiers? Y a-t-il des raisons pourquoi ta job est moins bien perçue que d'autres, tu sais, selon toi?
Ben déjà, je pense que la hiérarchisation des métiers, ça nous nuit à tous puis à toutes, mais comme ça se ressent particulièrement dans l'industrie du sexe. Je pense qu'on est tellement stigmatisé que socialement, on n'est pas considéré comme si on avait un vrai métier, en fait. Là. Dans la hiérarchisation, comment ça fonctionne pour les autres types de métiers, c'est basé sur le capital qui est retiré des activités professionnelles. Puis les TDS, on échappe somehow à cette règle-là, parce que tu sais, il y a quand même plusieurs d'entre nous qui ont des revenus qui sont supérieurs à un avocate ou un médecin, mais vu que c'est un travail qui est beaucoup effectué dans l'ombre puis qui est ultra stigmatisé, même si on voulait, mettons, avoir la possibilité de graphir les échelons sociaux en fonction de notre revenu, comme ça semble être le cas pour les autres activités, on se retrouve encore dans cette espèce de double standard-là où est-ce qu'on fait des revenus supérieurs. Donc, selon les lois du capitalisme, on devrait avoir une reconnaissance alors qu'on est juste invisibilisé totalement.
C'est vraiment pertinent. Je suis contente de t'avoir choisi.
Je veux mentionner aussi que ça, des choses qui sortent d'un échange avec une amie, collègue à moi aussi, mais pas... Ça sort pas juste de ma pensée à moi, mais il y a eu un travail d'équipe. Donc, allô, belle personne, si elle écoute le podcast.
Bravo, collègue, merci.
Bravo, collègue. Je voudrais juste revenir sur la question précédente, parce que j'avais noté une autre chose que j'aimerais dire. La raison pour laquelle on est moins perçu comme des travailleurs et travailleuses avec un métier, c'est beaucoup par méconnaissance, en fait, par méconnaissance qui est alimenté par la représentation des TDS dans les médias, les films, les romans, la plupart du temps basé sur des gens qui n'ont aucune connaissance de ce milieu-là, ni de ce que ça implique. Souvent, on va nous dépeindre comme des victimes, puis des personnes exploitées. C'est une réalité qui existe, là. Je ne le nie pas. Mais tout l'aspect parallèle à ça, qui est les personnes qui choisissent de faire ça pour d'autres raisons, on demande même pas notre avis, puis nos perceptions, puis notre réalité avant de la dépeindre. Puis les gens consomment les journaux, les films, les livres, puis tout, sur nos histoires qui sont en fait racontées par des personnes qui ne nous connaissent pas. Puis la seule manière, après ça, de nous faire entendre nos voix, c'est de ce qu'on dit comme se hâter, là, s'exposer publiquement. Puis ça implique vraiment beaucoup de choses, dont du rejet de nos proches, du dégoût, des moqueries, puis encore plus de stigmatisation. Fait qu'on est comme dans un une impasse, là.
C'est fou parce que c'est ça, la représentation dans les médias, c'est un enjeu vraiment central de toutes les causes ou tous les groupes de personnes marginalisées parce qu'il y en a vraiment peu, là. C'est tout le même monde toujours dans les médias. En effet, il y a certaines personnes qui se ramassent dans ce métier-là sans nécessairement l'avoir voulu, mais il y a aussi une partie de gens qui le choisissent comme toi. Puis je me demandais, qu'est-ce qui te fait choisir ce métier-là, puis qu'est-ce que ça t'apporte de positif?
Ben ici, je veux juste faire une petite parenthèse. Là, je parle de mon expérience personnelle à moi, mélangée avec l'expérience personnelle de mes amis proches qui sont aussi dans l'industrie. Je cherche absolument pas à rendre glamorize le travail du sexe. Je sais que c'est pas tout le monde qui a fait ce choix-là, qu'il y a beaucoup de laideur puis de tristesse dans cette industrie-là. C'est une réalité qui existe, que personne nie. On en est tous conscients, les personnes qui travaillent dans l'industrie. Je veux juste pas ignorer cette facette-là. Mais moi, en fait, quand j'ai commencé, j'ai décidé d'essayer les salons de massage parce que je suis une personne super timide puis vraiment anxieuse dans la vie. J'aime vraiment pas prendre la place. Cet environnement-là, ça me donnait une espèce de safe space, comme un endroit où j'ai la possibilité d'être toutes les choses que je me permets pas d'être dans ma vie personnelle par peur d'être jugée, c'est-à-dire être sexy, séduisante, porter des talons hauts, du maquillage. Ça, c'est toutes des choses que j'adore, mais que je m'accorde pas dans ma vie personnelle de peur d'être jugée. J'ai vraiment juste des belles choses à dire, en fait, là, de mon expérience personnelle. Ça m'a permis de m'épanouir sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects parce que à travers ce personnage-là, parce que j'utilise obviously pas mon vrai nom, puis c'est un personnage, mais avec ma personnalité quand même. Mais ce personnage-là, il m'a permis d'apprendre, en fait, à mettre mes limites puis à dire non dans la vie. Chose que j'ai jamais été capable de faire, puis je pense pas qu'en dehors de ce personnage-là, j'aurais été capable de faire ça. Ça m'a permis comme d'expérimenter, de après prendre le résultat de ces expériences-là, puis de l'intégrer à ma vie personnelle, de mettre mes limites, puis de dire non. C'est comme si j'avais été comme forcée. Puis vu que à travers mon personnage, il n'y a pas de répercussions sur ma vie personnelle et mes relations interpersonnelles, ça m'a permis d'explorer, voir c'est quoi les réactions, bon, voir qu'en fait, c'est pas si pire quand tu mets tes limites, puis là, il y a plein de personnes qui les respectent, fait que je peux essayer dans ma vie personnelle maintenant. Puis un autre aspect positif pour moi, c'est la richesse des échanges. Ça me rend vraiment profondément heureuse puis satisfaite quand je vois mes clients qui ressortent heureux, puis je me sens vraiment privilégiée de pouvoir amener ce réconfort-là, des discussions intéressantes, puis de l'affection à des personnes qui, contrairement à ce qu'on pense, veulent pas juste des services sexuels la plupart du temps, mais veulent aussi comme une présence humaine. Puis je pense que le fait que mes services soient rémunérés, ça change rien à la véracité de ces interactions-là. Mmh.
C'est un métier full large, là, comme tu disais tantôt, toi, tu as commencé dans les salons, mais tu le fais aussi de façon indépendante, puis tout ça, mais t'es-tu game de nous faire un topo vite fait de c'est quoi les différentes façons de faire ce métier-là?
Oui, je peux faire ça. Là, désolé les personnes de l'industrie si j'en oublie. En gros, il y a les salons de massage, il y a différentes sortes de services qui sont offerts dans différents salons. Là, de base, normalement, le service, c'est massage érotique, corps à corps, avec de l'huile, avec un happy ending à la fin, puis détente manuelle. Sinon, il y a les agences d'escorte. Sinon, il y a les personnes qui font de la webcam, différentes plateformes sur Internet où est-ce que tu peux te filmer ou vendre des vidéos ou te filmer en live. Dans le fond, tu te fais typer par des personnes qui regardent ou qui te demandent des choses spécifiques. Sinon, il y a évidemment les gens qui font de la porn. Ça, j'ose assumer que vous savez tous de quoi il s'agit. Sinon, il y a des escortes, puis des personnes qui travaillent en domination de manière indépendante. Donc, encore là, c'est des personnes qui vont s'occuper de la promotion de leur service. Puis, comme je le mets un petit peu plus tôt, là, il y a les personnes qui dansent, les strippers. Puis, il y a aussi j'ai mis un astérix parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, se dire TDS quand ils sont chez le baby, ben, je trouve que c'est du travail du sexe. La manière standard, en fait, c'est que tu as une personne qui te paie soit par rencontre ou par mois, puis c'est plus une relation amitié, mais où est-ce qu'il y a des interactions plus fréquentes avec des textos, des échanges, vraiment comme si ton sugar daddy, par exemple, était ton ami ou ton copain. T'sais, on parlait de hiérarchisation tout à l'heure dans les métiers, mais même à travers le travail du sexe, entre les travailleurs et les travailleuses du sexe, il y a une hiérarchisation aussi qui est peu fondée, mais tout de même qui existe. Les danseuses vont être considérées comme plus acceptables socialement, mettons, que les escortes. Puis là, il y a comme le salon de massage qui est comme la zone mitoyenne. C'est hiérarchisé selon le genre de service que tu offres, puis plus tes services comprennent des contacts sexuels, c'est comme si c'était moins accepté, même dans le milieu des TDS, ce que je trouve triste. Après, c'est pas le cas de tout le monde, c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Il y a plein de belles personnes qui croient pas à cette hiérarchisation-là, mais c'est quand même un truc qui existe.
Évidemment, il y en a dans tous les métiers, mais j'aurais pas pensé, mettons, que c'était basé nécessairement sur le type de service que tu offrais.
Oui, c'est vraiment très triste. C'est vraiment très triste d'ailleurs que dans on est des personnes qui sont déjà tellement comme stigmatisées, puis comme isolées, qu'il y ait ce genre de dynamique-là à même nous. C'est vraiment désolant.
C'est quoi les principaux avantages pour toi d'être ta propre boss?
Vraiment la gestion de mon horaire puis de mon temps. Je suis étudiante à temps plein. Donc, par exemple, si j'ai des examens de mi-session, des examens de fin de session, des travaux importants à remettre, je peux vraiment dire au salon, je ne travaille pas cette semaine, ou si je suis malade, je ne travaille pas ce mois-ci, ou puis tu te fais pas renvoyer. C'est comme une espèce de non-dit que tu rentres un peu quand tu veux, tant que tu te présentes sur les disponibilités que tu as. Puis c'est le même truc comme à travers mon travail de domination. Mon horaire est exactement comme je veux qu'il soit et comme je le décide. Ça, c'est vraiment le gros avantage.
Est-ce que tu trouves que c'est difficile des fois de mettre des limites claires entre ta vie personnelle puis professionnelle? Parce qu'il faut quand même que tu les prévoies, ces moments-là où tu vas travailler ou que tu, justement, que tu le fasses, ton horaire, que tu le gères, ton site web, que tu fasses toutes ces affaires-là. Est-ce que c'est facile ou difficile pour toi de faire la coupure entre les deux?
C'est une bonne question. Oui puis non. Mais je pense que mon personnage, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même une extension de moi. Fait que, est-ce que c'est facile de faire la coupure dans mon cas? Oui. Est-ce que je la fais ou j'ai envie de la faire? Dans mon cas, pas vraiment. J'adore qu'est-ce que je fais. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi qui sont des personnes qui travaillent dans l'industrie également. C'est un milieu dans lequel je suis super épanouie, je suis fière d'être TDS. Fait que j'ai pas vraiment le besoin de faire la coupure. Ça fait partie de mon identité vraiment. Puis la majorité des personnes autour de moi savent déjà que je suis dans l'industrie ou vont souvent comme m'envoyer des personnes qui veulent peut-être être dans l'industrie ou poser des questions. Donc je dirais qu'il y a pas vraiment de coupure. Les seuls moments dans ma vie où j'aurais envie de faire une coupure, puis que c'est difficile, c'est dans mes relations intimes avec mes partenaires, en fait, qui savent ce que je fais. C'est vraiment les seuls moments où j'ai l'impression que par rapport à mon travail, on projette sur moi des attentes auxquelles on s'attend que je réponde parce que je suis TDS. On a des attentes par rapport à ma performance sexuelle, par rapport à mes kinks, par rapport à comment je vais performer.
C'est clair, ça doit être tellement anxiogène d'avoir toujours cette pression-là. Ça doit être hallucinant. C'est plus riche ta réponse que ma question. Ma question, dans ma tête, était ultra pragmatique dans le sens où je me disais, c'est toi qui dois gérer tes horaires puis faire toutes ces affaires-là. C'est une full grosse charge de travail qui revient comme en dehors des heures où tu es en train d'être avec tes clients. Fait que c'est ça que je me disais qui peut devenir envahissant aussi des fois.
C'est sûr que c'est plus difficile en tant que dominatrice. Mettons que vu que je suis indépendante, là, c'est vraiment plus de gestion, puis comme je peux pas vraiment laisser passer si j'ai de la demande, je trouve que c'est vrai que ça prend beaucoup d'espace. Au salon, par contre, c'est vraiment le contraire. Je fais juste me rendre au travail, je suis là les 6 heures qu'on s'attend à ce que je sois là, puis après, je repars, puis ma journée est finie, puis j'ai rien à penser, là.
Ben merci. J'ai fait le tour de mes petites questions, mais toi, y a-tu d'autres choses que tu avais envie de dire puis qu'on n'a pas abordé?
Ben oui, en fait, il y a une chose que je voudrais dire. C'est juste un petit message aux personnes qui disent qu'ils sont nos alliés, parce que c'est un truc que j'ai remarqué vraiment beaucoup, puis qui a été discuté entre des amis TDS et moi avec mes amis aussi. Les alliés, puis les personnes qui savent que les gens sont TDS, si la personne vous fait assez confiance pour vous le dire, s'il vous plaît, ne hâtez pas vos amis pour avoir du capital militant. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est vraiment désagréable, puis on est beaucoup à avoir ce problème-là. Les gens vont juste dire « Ah, mon ami TDS », juste pour mentionner le fait que j'ai une amie ou un ami qui fait ça, donc j'ai une ouverture. Ça, c'est une réalité qui nous appartient à nous, puis pas à vous. Fait que, s'il vous plaît, n'hantez pas vos amis. Ça perpétue le stigmatisation, puis en plus, c'est dangereux pour nous. Fait que, s'il vous plaît, ne faites pas ça.
Mais merci vraiment full d'avoir jasé avec nous. Si jamais on trouve des bonnes idées ensemble de quelques représentations médiatiques positives et appropriées.
C'est ça, je pensais pas à des films ou des séries tout de suite, mais Mélodie Nielsen, personne exceptionnelle, extraordinaire à suivre sur Instagram et lire tous ses livres et ses articles et son blog. Vraiment une personne merveilleuse, inspirante.
Malade, on va mettre en lien dans nos réseaux sociaux, ses réseaux sociaux. Ben, merci beaucoup, je vais peser sur stop dans 2 secondes. Oh, merci, merci, j'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y avait crissement du stock dans toute cette entrevue.
My God, tellement.
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Alex?
Oh, tellement d'affaires, tellement de belles affaires dans cette entrevue-là. J'ai le goût... de commencer tout de suite par faire un lien avec mes réflexions par rapport au métier que notre invité fait en particulier, puis un peu du stigma qui peut être associé à certains types de métiers, dont le travail du sexe, mais aussi plein d'autres métiers qui sont comme vus négativement par rapport à d'autres. Je m'inspire dans ma réflexion de plusieurs sources que je vais toutes mettre dans les notes de l'épisode, mais je veux en noter une en particulier, c'est Bertoul Beaurebec que j'ai entendu dans le podcast de La Poudre, qui est une artiste puis une autrice afroféministe qui est queer, puis qui est TDS par la bande, puis qui a écrit un essai qui s'appelle « Balance ton corps, manifeste pour le droit des femmes à disposer de leur corps », puis Beaucoup de ce que je vais dire s'inspire de sa parole.
Oui, puis juste pour que vous soyez toutes au courant, toutes et tous, TDS, c'est pour travail du sexe ou travailleuse du sexe. On va des fois utiliser l'abréviation pour alléger notre discours.
Ouais, excusez, j'ai sauté des abréviations bien vite. c'est ça, je voulais parler du stigma associé à certains métiers, puis un peu de la hiérarchisation des métiers, puis notre invité en parlait dans ton épisode. Ça me fait capoter parce que, tu sais, tout le monde a besoin d'argent pour survivre dans le monde capitalisme, pour survivre ou pour vivre dignement, tu sais, les travailleurs, travailleuses du sexe n'échappent pas au capitalisme, ils vivent pas dans un monde où on n'a pas besoin d'argent, puis c'est pas comme... On dirait que souvent, c'est vu comme un caprice de faire ce travail-là en particulier, mais comme c'est un métier, puis tout le monde a besoin de faire de l'argent pour survivre, puis c'est juste complètement déconnecté de penser qu'il y a certaines personnes qui font... certains métiers qui devraient pas le faire parce que, je veux dire, faut travailler dans la vie puis on a pas le choix de faire de l'argent pour survivre dans le monde dans lequel on vit. Puis c'est ça, on peut pas claquer des doigts puis arrêter de vivre dans un monde capitaliste néolibéral puis pour survivre, un peu comme on a dit dans l'épisode passé, dans ce monde-là, mais il faut comme faire un métier qui est cohérent le plus possible avec les valeurs qu'on a. Puis si, comme, faire ce travail-là, c'est cohérent avec les valeurs que tu as, ben comme c'est juste ça qui est important, puis c'est juste ça qu'il faut. Puis ça me faisait penser un peu à mon entrevue avec Clotilde Dubalet dans le premier épisode de la saison où elle disait qu'elle était comme entrepreneur un peu parce qu'elle avait pas le choix, parce qu'il fallait bien qu'elle vende ses affaires, mais qu'elle tripe pas sur la vie d'entrepreneur. Mm-hmm. Particulièrement, tu sais, c'est pas être entrepreneur qui l'anime nécessairement, mais elle vit dans un monde capitaliste, fait qu'elle a pas le choix de vendre un peu ce qu'elle fait pour survivre là-dedans. Puis c'est ça, ça m'énerve l'espèce de réflexion comme si on pouvait se passer on pouvait se passer d'un métier dans la vie puis qu'on allait être correct parce que c'est pas le cas, là.
Oui, l'idée qu'on vend notre âme à chaque fois qu'on fait de l'argent avec quelque chose, c'est pas nécessairement ça. Si tout ce que tu fais dans la vie est en fonction uniquement d'avoir du cash pour t'enrichir, oui, I get it, mais ou si tu vas renforcer des valeurs en lesquelles t'es vraiment opposé, je comprends. Mais dans la vie, il faut qu'on mange, on habite dans des villes, comme Gabriella disait dans l'autre épisode, ouais. Mais on peut pas juste troquer de la nourriture, des vêtements puis des loyers, ça marche plus dans notre société. Fait qu'à un moment donné, on peut s'arrêter de se schémer entre nous autres, Chris.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment fucké. Puis qu'est-ce qui est le plus gossant, c'est que il y a comme, on dirait, certaines personnes ou une certaine classe de personnes qui décident c'est quoi qui est un métier qui a du bon sens, puis c'est quoi qui est un métier qui a pas de bon sens, tu sais. Puis comme disait notre invité, c'est pas nécessairement juste basé sur c'est qui fait le plus d'argent, mais c'est beaucoup basé là-dessus. Puis de toute façon, pourquoi il y a certains métiers qui font plus d'argent que d'autres, tu sais, alors que, tu sais, par exemple, dans les types de travail du care, il y a des métiers qui sont super payés puis d'autres vraiment pas payés, mais c'est tous des travails du care desquels on a besoin. Tu sais, je pense à quelqu'un qui fait du ménage par rapport à quelqu'un qui va, genre, soigner des dents. Tu sais, je veux dire, il y en a pas un qui est moins dégueu que l'autre, là. On s'entend. Puis il y en a une catégorie qui est fucking riche puis l'autre qui a de la misère à arriver. En tout cas, ça m'écœure.
Ouais, vraiment. Puis avec la pandémie, on a vraiment eu un gros... on a fait face à ce problème-là. On n'a pas eu le choix. Tu sais, les métiers qui sont comme moins valorisés parce qu'ils faisaient moins d'argent se ramassent à être les travailleuses essentielles finalement, puis que sans elles, ben il n'y en a plus d'approvisionnement de toute la société en produits puis en services essentiels. Mm. Les gens qui travaillent en CHSLD, tu sais, on a besoin d'eux. Les gens qui nous torchent, tu sais, à un moment donné, qui nous vendent la... Ben, c'est ça, c'est plein de métiers qui sont mal vus ou qui... Sans être mal vus, ils sont juste moins considérés parce qu'ils sont moins hauts dans l'échelle du capitalisme, justement là, de la hiérarchie basée sur le salaire, puis c'est un peu ridicule. Puis de voir que les préjugés contre le travail du sexe font même que ce métier-là est même pas considéré dans la catégorie, tu sais, dans la hiérarchisation monétaire.
C'est carrément à côté.
Mm. Même le capitalisme est influencé par ce préjugé-là, c'est fort en crise.
Ouais. Oui. Puis ça pose aussi vraiment un gros enjeu qui est, vu qu'on considère comme ce métier-là à part de tous les autres métiers, ça fait que les personnes qui font du travail du sexe ont aucune ressource puis aucune protection liée à leur emploi comparativement à d'autres personnes qui ont par exemple des syndicats ou des associations professionnelles ou qui ont des lois qui vont pouvoir les protéger par rapport à leurs clients, par rapport à leurs patrons, etc. Juste des fucking normes du travail pour les protéger de potentiels abus. Ben quand on considère un métier comme étant pas un vrai métier, ben toutes ces protections-là, ben ils tombent, puis c'est fucking grave parce que ça, je pense que c'est comme un espèce de cercle vicieux qui fait en plus que comme on a pas de contrôle sur certaines dérives qui peuvent arriver dans ce métier-là, puisqu'il y a pas de filet de sécurité, ben on voit rien que ça, puis ça alimente le stigma, puis c'est ça fait que ce métier-là est encore plus mis à côté de tout ce qu'on se considère comme un métier entre gros guillemets normal, puis c'est ça, je pense que les travailleurs du sexe en sont un exemple, mais qu'il y a plein d'autres métiers qui sont victimes de cette hiérarchisation vraiment comme arbitraire du travail qui est super problématique. Une autre chose que je voulais dire par rapport au travail du sexe en particulier, c'est que ça rentre dans ma réflexion par rapport à qu'est-ce qui est un travail rémunéré puis qu'est-ce qui est un travail pas rémunéré, mettons. Puis il y a des considérations féministes aussi par rapport à ça, mais je trouve ça fucké parce que... OK, ma réflexion est un peu comme en développement, fait que j'espère que je vais la sortir comme faut, mais mettons le travail du sexe, OK? On rémunère des gens pour des services sexuels, puis ça, c'est considéré comme étant amoral, comme pas correct. Mais dans plein de relations de couple, mettons, surtout dans des mariages hétéros, le sexe peut être utilisé comme une monnaie d'échange, comme de façon c'est super accepté. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est tu sais, évidemment il y aura pas d'échange direct d'argent, quoique peut-être des fois, mais comme tu sais, des personnes qui consentent entre gros guillemets à une sexualité avec la personne qui est dans leur vie, puis à faire plein de tâches de care aussi, pour obtenir un toit, pour obtenir de l'argent de poche, pour obtenir une protection, pour obtenir des fois un statut social, pour avoir la paix, tu sais, pour arrêter de se faire achaler, pour avoir une certaine comme paix psychologique. Puis je sais pas, qu'est-ce que je me dis, c'est que ça existe, puis qu'on n'en parle jamais de ça, qu'il y a comme tout le temps, pas tout le temps, mais il y a souvent une relation, une espèce de monnaie. Le sexe est souvent utilisé comme une monnaie d'échange dans des contextes qu'on normalise. Et puis aussitôt qu'on fait vraiment rentrer de l'argent là-dedans, ben là, comme on arrête de trouver ça normal. Puis je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre.
Vraiment. Puis j'ai comme le goût de répondre d'avance là, à celles qui pensent que c'est un peu tiré par les cheveux comme concept, parce que c'est pas la première fois que je jase de ce concept-là, puis les gens sont comme « Ouais, mais c'est pas vraiment une monnaie d'échange. » Ben, j'ai envie de me risquer un peu là, à des confessions peut-être un peu trop personnelles qui vont peut-être me retomber d'en face, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça l'authenticité, il paraît? Note. En tout cas, gardez ce qui va suivre entre vous puis nous. Je vous fais confiance. Dit-elle avant de poster son podcast sur toutes les parties du monde. Puis j'ai fini mes parenthèses. Bon, ce que je voulais dire, c'est que même si je suis au courant de l'importance du consentement éclairé puis non influencé par des éléments extérieurs, ben moi aussi, tu sais, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'accepter une relation sexuelle pour avoir une couple d'heures ou de jours sans tension qui me repop d'en face ou juste pour me sauver de l'ambiance lourde puis difficile qui va suivre un refus. Ou qui peut apparaître quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour ou des choses comme ça. Puis ce qui est terrible, c'est que si moi je l'ai faite sans être dans une relation violente, puis avec tout le bagage de réflexion féministe que j'ai, bien, ça me semble une évidence que ça se fait en général, constamment. Puis moi je le faisais avec le seul objectif d'avoir la sainte paix pour 24 heures, mais dans le cas des générations quasi entières qui sont venues avant nous, où les maris travaillaient puis assuraient la subsistance économique de la famille, bien, la pression pour le sexe était d'autant plus grande. Puis c'est malheureux, mais c'est tout à fait concevable que le sexe ait fait partie d'une sorte de troc entre les époux, tu sais.
Ben oui.
Fait que c'est ça, c'est un peu hypocrite de critiquer le travail du sexe en l'opposant aux bonnes valeurs catholiques, parce qu'il y a aussi ça, là, des fois la religion s'ingère contre ça, puis c'est comme... Attends un peu, là!
La religion s'intègre énormément dans cette espèce de séparation entre qu'est-ce qui est moral puis qu'est-ce qui est pas moral, puis c'est fucking, genre, au centre de qu'est-ce qui est considéré comme bien dans la religion catholique qu'il y ait des relations de troc en échange du sexe. C'est tellement vrai, j'avais pas pensé de même, mais comme ça fait pas de mots du sens. Mais je compatis vraiment avec ton expérience, puis ouais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui vont se reconnaître dans ce que tu dis, malheureusement.
Oui, puis comme sinon, je pense qu'on y réfléchit deux secondes, puis des fois c'est même inconscient, mais on l'a pareil dans la tête, tu sais, puis comme c'est plate, là, mais c'est ça.
C'est dégueu. Pour élargir un peu notre conversation par rapport à l'entrepreneuriat en général, parce que n'oublions pas que c'est un épisode sur l'entrepreneuriat qu'on est en train de faire, j'avais le goût de parler un peu de mon expérience personnelle par rapport à l'entrepreneuriat, parce que je me suis reconnue dans beaucoup de choses que notre invité a dit par rapport à la façon dont elle a géré sa carrière, finalement, d'entrepreneur. Puis par rapport à la gestion de son temps, puis aux avantages, puis aux inconvénients liés à gérer puis à créer sa propre carrière. Fait que voici un docu-dé de mon expérience comme travailleur autonome / entrepreneur.
Yeah, j'adore!
J'ai été entrepreneur en communication en sortant de mon bac. J'ai commencé à être travailleur autonome, dans le fond, après avoir été sur le chômage, après un contrat, puis j'étais sur le chômage, mais je prenais quelques contrats sur le side pendant ma recherche d'emploi, mais à un moment donné, j'avais tellement de contrats que ben j'avais plus besoin d'être sur le chômage, puis j'avais plus besoin de me chercher de job, fait que je me suis comme ramassée entrepreneur un peu sans faire exprès. Puis, spoiler, je le suis plus, parce qu'à ce moment, je suis étudiante, puis je suis employée syndiquée de l'UQAM. Fait que j'ai comme fini avec cette espèce d'époque-là de ma vie, mais c'est pas dit que je vais pas y retourner parce que la vie est longue, puis travailler dans un bureau, je sais pas si c'est fait pour moi, travailler dans une entreprise, je veux dire. J'ai un rapport ambigu avec le statut d'entrepreneur, puis je me dis que ça valait la peine que je partage mon expérience parce que ben j'aimerais ça que les personnes qui nous écoutent puis qui sont entrepreneurs ou qui sont travailleurs autonomes nous communiquent avec nous pour nous parler de comment elles voient ça, puis si je suis toute seule à me sentir un peu comme mélangé par rapport à l'entrepreneuriat.
Mm-hmm. Peux-tu nous faire une liste de pour puis de contre?
Oui, OK. Je commence par les pour.
Yeah.
Premièrement, j'ai un problème avec l'autorité. j'ai décidé d'assumer ça il n'y a pas longtemps. J'ai ça, me faire dire quoi faire, surtout par quelqu'un de mieux payé que moi, puis surtout par quelqu'un qui connaît pas mes tâches, parce que c'est mon boss, mais ça veut pas dire qu'il ou elle sait comment faire, qu'est-ce que moi j'ai à faire, mettons. J'ai vraiment souvent vécu dans tous mes jobs, en fait, de la frustration liée à ça. J'en vis encore en tant que syndiquée de l'UQAM, d'ailleurs. Puis ça me rend aussi vraiment, vraiment anxieuse d'avoir un cadre rigide de travail, tu sais, d'être obligée de peut-être dans un endroit physique ou en avant de mon ordinateur, de telle heure, à tous les jours, pendant la semaine, d'avoir une équipe de travail avec qui je dois socialiser aussi. Là, ça me rend bien anxieuse, même si c'est des personnes que j'aime. C'est comme pas un setup dans lequel je suis bien. D'être obligée d'arriver à une certaine heure puis de partir à une certaine heure pour avoir l'air de travailler fort alors que je suis une overachiever de toute façon puis que je vais tout faire qu'est-ce que j'ai à faire. Là. Je suis sûrement pas toute seule dans ma gang, mais c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que le statut d'entrepreneur ou de travailleur autonome, pas avoir de boss, pas avoir de bureau, pas avoir d'équipe, trouver mes propres clients, fait que trouver ma propre job, ben ça m'aide comme à me sentir mieux dans le monde capitaliste dans lequel on vit. Mais là, c'est la fin des pours, parce que si tout allait bien, on ferait pas un épisode là-dessus.
Vrai.
Je vais faire maintenant la liste de contre.
OK, on est prêt.
La première chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, c'est l'espèce d'injonction de performance puis de marketing de soi quand t'es entrepreneur qui m'a fait vraiment capoter. On en a parlé déjà un petit peu, mais c'est le cas pour n'importe quel projet là, qu'on est obligé de faire un petit peu de marketing, de branding. On le fait pour tout ou pas tout, tu sais, même d'essayer juste de nous faire connaître puis de diffuser qu'est-ce qu'on fait à plus de monde. Mais comme je me suis abonnée à tellement de blogs, j'ai commencé à suivre tellement de podcasts, de groupes Facebook qui donnaient des conseils sur comme la façon la plus efficace de se vendre, d'aller chercher plus de clients, de réseauter, etc. C'est souvent conseillé de personnaliser son entreprise, de parler de soi en tant qu'entrepreneur, idéalement sur les médias sociaux, de se mettre de l'avant, d'avoir une personnalité intéressante, une image de marque. Faut avoir un certain standing aussi, là. Fait qu'il embarque une espèce de compétition avec d'autres entrepreneurs qui font la même chose. Tu sais, tu vas regarder qu'est-ce qu'ils font puis tu vas te dire « Ah, oh, fuck, faudrait que je fasse ça. » Fait que je me comparais vraiment beaucoup, même à des gens qui étaient comme dans des cercles d'entraide, par exemple, d'entrepreneurs en communication. Je finissais par regarder qu'est-ce que les autres faisaient puis de me mettre un peu en compétition avec ces personnes-là. Puis, je suis comme vraiment rentrée dans une spirale super stressante de comparaison, de to-do list puis d'objectifs qui finissaient plus. Puis, qu'est-ce que j'essaie de dire? Dans le fond, c'est qu'en tant qu'entrepreneur ou que travailleur autonome, on passe une énorme partie de notre temps comme pas à travailler, pas à faire notre projet, mais comme à se vendre. Puis, notre invité en parlait beaucoup que, genre, une grosse partie de son temps, c'est ses tâches administratives. Puis comme les règles de l'or pour se vendre comme faux peuvent être dures à la santé mentale à cause de la comparaison, entre autres. Puis la frontière finit par être floue en toi, puis ton produit ou ta compagnie. Puis c'est comme vraiment fucké de se vendre, surtout quand le produit, c'est comme toi-même. Parce que, mettons, j'étais consultante en communication, fait que c'était moi mon produit, fait que c'était comme... C'est comme fucké, puis c'est comme si à un moment donné, les moyens qui sont le marketing, qui sont supposés être là pour t'aider... à aller te chercher comme des clients, il dépasse la fin qui est de faire la job, comme avec l'accumulation de capital, que des fois, comme l'argent, c'est juste supposé de t'aider à acheter des choses, mais le but, finalement, c'est juste d'avoir de plus en plus d'argent, mais je me sentais de même. Puis, ça a fini que je me trouvais jamais assez big, jamais assez comme out there, j'ai eu vraiment le réseautage, jamais assez cool, puis j'ai fini par tout sacrer là finalement, puis retourner à l'école parce que j'étais pas bien là-dedans, mais pas à cause du travail que je faisais, mais à cause de tout ce qui l'entourait. Puis c'est ça, ça m'a vraiment fait me questionner par rapport à quel point on est plus libre finalement quand on est entrepreneur puis quand on est notre propre boss, parce que je me sentais vraiment finalement comme prisonnière de cette espèce de liberté-là que je m'étais créée. Je sais que c'est contradictoire, mais...
C'est correct. C'est ça qui fait que c'est un sujet complexe.
Oui, c'est ça. Puis j'ai aussi l'impression que souvent, on finit par plafonner en tant qu'entrepreneur, tu sais, à moins de partir, parce que c'est pas vrai qu'on part tout égal dans la vie, là, tu sais, à moins de partir avec une aussi grosse mise de fonds ou des contacts de fous, ben c'est comme, encore une fois, je reviens au mythe, là, mais comme sortir de ces problèmes financiers de début de carrière d'entrepreneur, puis vraiment comme pouvoir, te gérer, puis être à l'aise, puis être libre. Je ne connais pas beaucoup de monde qui sont rendus là, qui struggle plus, puis qui dépassent le stade où tu te sens vraiment pogné dans tes factures. Puis c'est ça, il y a plein d'autres espèces d'injonctions de performance dans l'entrepreneuriat. Il y a plein de business qui mise sur l'espèce de peur puis de sentiment de pas être assez que j'avais, là, tu sais, des outils pour gérer son temps, des coachs pour être un meilleur entrepreneur. Tu sais, il y a une business aussi qui capitalise là-dessus, puis je trouve ça ben fucké.
Hey, c'est clair. Mais ça va dans l'industrie du well-being dont on avait parlé aussi,
ouais,
là, comme
carrément.
Essayer de te faire sentir bien dans les choses que tu n'arrives pas à accomplir, dans
ouais.
un système trop grand. Tu sais, comme...
Ouais.
C'est ça. Ça ouais. en fait partie, je pense.
C'est ça. Puis aussi, mon autre pour dans ma catégorie... mon autre contre dans la catégorie des contre, c'est la solitude qui est reliée à l'entrepreneuriat. Tu sais, à moins justement que tu réussisses à dépasser un certain stade où tu es capable d'avoir une équipe. Fait que là, tu sais, tu crées ton équipe avec des personnes que tu choisis puis qui t'aiment, puis ça, c'est vraiment cool. Mais tu sais, moi j'étais toute seule là, fait que je travaillais tout le temps toute seule, j'avais pas de vacances, j'avais pas d'assurance, il a fallu que je me prenne des assurances privées, mais comme je savais pas, fait que vraiment pendant vraiment longtemps, si j'étais tombée malade, j'aurais juste été vraiment normale. Tu peux pas avoir de chômage d'ailleurs quand tu arrêtes de travailler, tu es travailleur autonome. T'as pas de formation continue qui est payée, tes impôts qui finissent plus, comme arrêter de nous faire croire que de faire passer nos factures sur nos impôts, ça va nous rendre riches, comme c'est pas vrai.
C'est pas vrai.
À moins qu'il y ait comme taille 50 chars, je sais pas. Puis t'as pas d'équipe pour te backer s'il t'arrive quelque chose, puis c'est beaucoup de charge mentale, puis c'est ça. Fait que je trouve qu'il y a, finalement pour moi, je pense qu'il y avait, non, je sais pas, je pense que c'est égal de pour pis de contre parce que l'angoisse de travailler dans une équipe et de travailler dans un bureau, ça peut être vraiment lourd. Puis en même temps, tu sais, ton travail, ton entreprise, ça peut être vraiment, comme notre invité nous le disait, un endroit pour s'assumer, pour apprendre ses limites, pour s'affirmer, pour avoir confiance en soi. Puis il me semble que c'est juste ce qu'on veut dans la vie. Fait que je trouve ça plate qu'il y ait autant de côtés un peu amers par rapport à ça.
C'est vrai, mais c'est vrai que c'était vraiment intéressant quand on parlait de ça, quand on parlait de son personnage de job.
Mm-hmm.
Puis je trouvais que c'était vraiment pas si loin que ça d'être une réalité commune parce que les codes professionnels ont vraiment beaucoup d'impact sur ce qu'on présente de nous dans un contexte de travail, tu sais. On est tous un peu à côté de nous-mêmes quand on est en contexte de travail, je pense. En tout cas, moi, je le sens de même. Puis ce que son personnage à elle y apportait comme sentiment de safe space pour explorer, justement, comme tu disais, bien, la musique, puis particulièrement même la scène folk, ça a fait la même chose pour moi. C'est là que j'ai commencé à me mettre du linge un peu plus sexy, genre pour tester, mais tu sais, entre guillemets, parce que je sais pas qui a décidé qu'une paire de jogging, c'était pas sexy, mais...
Oui, d'ailleurs.
On sait pas. Mais j'ai aussi mis des jogging en show, mais justement, comme tester puis voir... Qu'est-ce que je peux faire qui va faire réagir ou pas faire réagir le monde? Fronter une attitude un peu plus provocatrice, un peu plus assumer des idées plus radicales dans un micro.
Ouais.
Mais bon, je sais que je peux pas considérer ça comme mon travail parce que ça me rémunérait pas, mais c'est quand même un peu mon métier en quelque sorte parce que c'est
mais
ça que je fais constamment. T'sais. Puis ça m'a vraiment permis, moi, de transposer cette liberté-là que je prenais mettons, dans mon métier ou ma vie professionnelle,
dans tes projets.
À ma vie personnelle, ouais, dans mes projets, à mon identité carrément, puis c'est super précieux.
Mais hein.
Je pense que c'est important d'être capable ou d'essayer de trouver le moyen de se servir de nos jobs pour s'empowerer personnellement, quel que soit la job. C'est sûr qu'il y a des jobs où c'est plus tough que d'autres, mais c'est le fun de réussir à aller chercher quelque chose de notre travail aussi.
Oui, mais hein.
J'ai envie de faire un petit point pour parler de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Je suis pas une spécialiste absolue de la technologie, au cas où vous le saviez pas encore. Je pense qu'Alex est au courant. Mais je suis quand même une professionnelle du scrolling, par exemple.
Bon.
Puis j'ai vu plusieurs comptes que j'apprécie vraiment beaucoup en lien de près ou de loin avec la sexualité, notamment sur Instagram. Ces temps-ci, se faire shadow ban, se faire retirer des photos, même fermer les comptes depuis qu'il y a eu encore une modification sur la politique d'utilisation d'Instagram.
Est-ce que tu peux faire une définition de shadow ban pour les personnes qui ne sont pas au courant de ce que ça veut dire?
Dur, mais c'est au final de ne pas être... Comme ça empêche que les utilisateurs te voient fluidement ou, mettons, tu écris dans la barre de recherche, tu cherches le compte que tu connais, puis comme étrangement, il n'apparaît pas cette journée-là, ouais. où tu vois ouais. moins de contenu de cette page-là, tant que tu vas pas cliquer dessus puis aller voir qu'est-ce qu'il a posté.
Ouais.
Fait que ce serait ça, je pense, ma définition vite faite de shadow ban. Mais c'est ça, puis il y a c'est ultra sexiste, là, cette nouvelle politique-là aussi, parce que mettons, bon, par exemple, les mamelons qui sont perçus comme étant féminins ouais. sont censurés. Puis les mamelons ouais. perçus comme masculins sont acceptés.
Ouais.
Il y a plein de il peut y avoir des travailleuses du sexe qui se font fermer leur compte sous prétexte de photos trop osées ou d'utilisation ouais. ou des gens qui utilisent des mots jugés trop sexuels. Il y a le même profilage qui se fait au niveau des éducateuristes sexuels, qui représentent quand même une source d'information vraiment importante puis essentielle pour plusieurs membres des communautés LGBTQI2A+. Là, c'est là qu'on fait notre éducation. Rox en parlait dans la saison passée, mais c'est vrai. Puis il n'y a pas d'espace dans les médias mainstream de fait pour ces personnes-là puis ces sujets-là. Mais dans les réseaux sociaux, ben là, on les bannit. Fait qu'à ouais. mon œil, moi, c'est un peu comme de la gentrification. Genre, on tasse tranquillement les personnes qui font pas notre affaire du territoire qu'on veut contrôler, question de bien paraître, mais on continue de les exploiter impunément du haut de nos tours d'ivoire, tu sais. Comme, on empêche les gens de l'industrie du sexe d'être présents sur les réseaux sociaux, mais on continue de consommer de la porn gratuite sur des sites poétiques pour 2 cents. À un moment donné, c'est whack. Mais là, je chiale pour chialer, mais mettons que je me mets en mode solution, mais je veux juste vous dire que les comptes que vous aimez, qui vous aident ou qui vous ont aidé à vous construire une éducation sexuelle ou à vous construire même une identité, ben, ils ont fort probablement besoin d'un petit coup de support, une petite coche de plus que d'habitude ces temps-ci. Fait que si vous le faisiez pas déjà, c'est un bon moment pour le faire. Interagissez avec les publications, partagez, enregistrez, commentez, likez leurs pages de backup, parce qu'il y en a qui ont déjà des pages de backup. À un moment donné, le monde a des avertissements qui vont se faire enlever. C'est complètement fou. Fait que pour que la perte soit un peu moins lourde, si elle devait être retirée pour de bon, ben c'est le fun quand nos followers aident un petit peu.
Bravo, full important.
C'était un gros aparté, hein, quand même, c'était long. Je suis désolée, gang.
Mais non, mais c'était important.
Oui, c'est ça, je trouvais que c'était important. En fin d'entrevue aussi, notre invité nous a parlé de Melody Nelson, une artiste qui est vraiment exceptionnelle, qui a entre autres gagné le prix de la poésie Radio-Canada. Puis pour avoir lu certains de ses textes, je confirme que ça vaut vraiment la peine de plonger là-dedans. Fait que je vais vous mettre dans les notes de l'épisode des liens pour aller lire ce qu'elle fait. Puis je vous jure que vous serez pas déçus. Puis j'ai encore quelque chose à dire avant de finir. Je finis plus d'avoir des choses à dire. Mais j'ai juste envie de rappeler un message vraiment important de notre invitée qu'elle a lancé en fin d'entrevue. C'est si vous avez des amis, travailleurs, travailleuses du sexe, on est bien contents pour vous, mais faut pas les hâter à tout vent pour faire du capital militant. C'est pas fin, c'est pas ça de la vraie amitié. Puis tant qu'à y être, faites donc la même affaire avec vos amis trans ou lesbiennes, oui. gays, puis vos amis à santé mentale fragile. Je sais pas.
Oui.
Il me semble que la confiance de vos chums, ça vaut plus que de passer pour un militante radical. Fait que c'est un pensez-y bien.
Très important. Bravo.
OK, j'ai plus rien, là.
C'est là-dessus qu'on va finir cet épisode de Tout ou Pantoute. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous autres, l'entrepreneuriat? Est-ce que vous vivez l'American Dream? Est-ce que vous avez starté from the bottom, now you here, avec mon bel accent anglophone?
L'Abitibi anglophone.
On a le goût de vous entendre puis de vous lire, fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout ou Pantoute, puis on est sur Instagram puis sur Facebook, puis on a même un courriel, toutoupantoute@gmail.com.
Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière, nous dire c'est quoi nos angles morts, qui on oublie, qu'est-ce qu'on oublie. N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On est ben plein de bonne volonté, puis on sait qu'on n'est pas parfait. Aussi, si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça avec le monde entier en répandant votre talent aussi efficacement que s'est répandu la COVID, écrivez-nous. On veut vous connaître, on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles. Au secours!
Please, please! Merci beaucoup à notre invitée du jour pour sa discussion, ma foi, tellement pertinente et intéressante. On est vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante de ta participation. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage. Puis merci à vous autres d'avoir joué avec nous.
Bye!
Ciao, Pao!
Montreal. CKUT is looking for a full-time sales and administrative coordinator. The sales and administrative coordinator is responsible for the sale of on-air advertisements and co-presentation partnerships, as well as the negotiating of the radio station's administrative contractual agreements. The ideal candidate will have a passion for community radio, the ability to work with volunteers, clients, and community members, is well-organized, and has strong negotiating skills. We are looking for someone with knowledge of Montreal's arts, culture, and activity scenes who sees media as a tool for building community and can work in a non-hierarchical organization. Financial literacy, bilingualism, and experience with Google Suite products are also a requirement. For full details about the position, wage, and benefits, please visit ckut.ca. The cutoff for applications is Monday, February 6th at 5 p.m. CKUT strives to be a progressive working environment and recognizes experience outside of the formal workplace as important qualifications. We value the unique contributions that individuals from traditionally underrepresented and oppressed communities bring to our organization and encourage these individuals to apply.
I went to residential school. I was just 8 years old.
Gayla Kasla. My name is Gennarji O'Sullivan of the Tlaweetsis Nation, originally from Turner Island. You're listening to Window, exploring the legacy of Indian residential schools.
Our next speaker here is Viola Thomas. She is also a residential school survivor.
Part of our obligation where I work with the Truth and Reconciliation Commission of Canada is to inform Canadians on the truth. But I believe that as more Canadian people understand that this was Canadian law and Canadian policy, and that Canadians need to take responsibility for the shared history, I also believe that Canadians have a responsibility to resonate reconciliation with the First Peoples of this country. And what did we learn when we went to this school? We learned how to be bullies, how to be mean to each other, how not to love, how not to feel a great sense of pride of who you are and where you come from. I learned about racism, and I didn't know what that was. I really didn't know what racism was. I learned about sexism, and as a young girl, I didn't know about sexism. There were many forms of abuse, not just the physical, but the intellectual abuse. To always be reminded that you're stupid and that you're nobody. To be told by your teachers and by the folks from the church that you're a savage, you're a squaw. And I just want to close with one of my heroes, a woman by the name of Winona LaDuc. And I offer this to all of our brothers and sisters who were abducted to residential schools. And I offer this with a good heart to non-Indigenous people so that they will pick up the torch. And this is what she says. There is no social change fairy. There is only change made by the hands of individuals.
You have just heard At Window, exploring the legacy of Indian residential schools. Both my mother and I attended St. Michael's Residential School in Alert Bay, BC. This is a part of a larger project called Resonating Reconciliation that engages community radio as a tool to help define what reconciliation is. Resonating Reconciliation is meant to help reconcile all Canadians to this shared history. This is the work of the National Campus and Community Radio Association, the Red Jam Slam Society, and this station. Resonating Reconciliation is also supported by the Indian Residential School Survivor Society and is funded by the Truth and Reconciliation Commission. To hear more, go to www.ncra.ca/resonating.
time to create a funky rhythm that's guaranteed to move the world. Have the party people screaming out,
go, girl.
It's like Diana Ross, I'm the boss. And those who disapprove, you can go for yours. But to think a girl like me hot is easy to take. Treat me like Nell Carter, give me a break. Cause I'm the super female that's called Shantae. And like Hurricane Annie, I'll blow you away. Whenever I'm in a battle, yo, I don't play. So you best go about your way and have a nice day. Most of them MCs. So when it comes around to the month of May, send me your royalty check for Mother's Day. Because yo, you know, you can't deal with this. I'm Shantae, the microphone grand mistress. A pioneer like Lola Falana with a name that stands big like Madonna. Speaking of Madonna, some girls on the mic rap like virgins and get real tight, but I get loose with the rhymes I produce. That's why I'm queen of the crew with the juice. Cause I'm the super female that's called Shantae, and like Hurricane Annie, I'll blow your way. Whenever in a battle, yo, I don't play, so you best go about your way and have a nice day.
Good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be. This is Firoz Manji. Welcome to the monthly broadcast from Daraja Press in collaboration with Amandla Radio. Thank you for joining us today. Recently, Professor Brian Mukande, Senior Research Fellow from the School of Languages and Cultures at the University of Queensland, Australia, visited Ottawa and gave lectures at Carleton University, Canada, and gave a number of seminars in Montreal as well. He has background in medicine, a physician, a doctor who trained in Harare, Zimbabwe, and has spent many years working in public hospitals there. He has